Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 120 ans se sont écoulés depuis le premier congrès sioniste. Un siècle depuis la déclaration Balfour reconnaissant aux Juifs le droit à un foyer national et 70 ans depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Pour autant, dès que l'on parle du Moyen-Orient, les passions sont toujours aussi vives. En France, en Angleterre, aux États-Unis, pas un mois ne s'écoule sans une nouvelle polémique sur la question de savoir ce que sont le sionisme, l'antisionisme, l'antisémitisme, voire les Palestiniens. C'est le sujet que tout le monde trouve stupide, mais dont personne n'arrive à s'empêcher de parler. Pour autant, le grand public, voire le public averti, qui s'énerve si souvent sur le sujet, ne sait pas forcément faire la différence entre les frontières de 48, celles de 67, entre les territoires occupés de Cisjordanie et Tel Aviv. Pour ne rien arranger, la personnalité comme la politique du Premier ministre actuel Benjamin Netanyahou, qui se rapproche des démocraties illibérales teintées d'antisémitisme d'Europe et d'ailleurs, ont contribué à cliver les camps, voire à rendre Israël incompréhensible. Dans ce chaos qu'est le Moyen-Orient, le pays apparaît comme le seul stable, sa sécurité est assurée, son économie affiche une santé insolente et pourtant, sur fond mondial d'attentats et de montée des populismes, un malaise grandissant se fait sentir. Israël, qui se veut désormais un État national juif, est-il encore le refuge des Juifs ? Alors que Donald Trump vient d'annoncer par tweet qu'il était temps pour le monde de reconnaître l'annexion du plateau du Golan par l'État d'Israël, alors que des élections générales se tiendront dans le pays le 9 avril sur fond d'affaires de corruption visant le Premier ministre, plusieurs ouvrages récents paraissent faire le deuil de ce que fut le sionisme. Pour essayer de clarifier les choses sur le sujet, aujourd'hui avec nous, Denis Charbit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont La traversée des utopies sionistes, Israël et ses paradoxes et Qu'est-ce que le sionisme ? Et vous publiez demain dans Libération une tribune en réponse au manifeste collectif intitulé « L'antisionisme est une opinion, pas un crime » qu'avait publié Libération en février dernier, qui a été signé par 400 personnes, dont Ronnie Broman, Eric Hazan, Jean-Luc Godard et Nancy Houston. Et vous nous parlez depuis, vous êtes où d'ailleurs, à Tel Aviv ou à Jérusalem?
À Tel Aviv.
Jonathan Ayoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de documentaires, vous avez notamment réalisé Auschwitz après Auschwitz, et vous sortez en ce moment avec Judith Cohen-Solal, La main du diable, qui est un essai sur la tentative de l'extrême droite pour séduire les Juifs de France. Je vous demanderai d'ailleurs pourquoi vous avez mis le sous-titre au passé, parce qu'on... Il me semble que c'est pas fini, mais enfin bon. Jean-Pierre Filu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont Les Arabes, leur destin et le nôtre, Généraux, gangsters et djihadistes, Histoire de Gaza, qui est Daesh, et vous publiez en ce moment Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Je crois que c'est votre premier livre sur Israël, non ?
En tout cas consacré exclusivement à Israël. Oui. J'ai fait beaucoup de livres et d'écrits sur le conflit israélo-arabe et la situation du Moyen-Orient, où évidemment Israël tenait une place essentielle.
Mais c'est le premier livre que vous faites vraiment sur la politique israélienne et sur Israël. Et vous dites que le projet est né après avoir entendu Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre, s'exprimer devant le Congrès sioniste mondial le 20 octobre 2015 à Jérusalem, à la veille d'une visite en Allemagne. Discours dans lequel il a expliqué qu'en fait Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, mais que c'était le grand moufti de Jérusalem qui lui avait mis cette idée dans la tête. Ce qui vous a choqué, ce qui a choqué beaucoup de monde d'ailleurs. Ça a même provoqué un tollé général en Israël. Le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Yaalon, a été obligé de rectifier, de dire que le grand moufti n'avait pas inventé la solution finale. Et même Angela Merkel a dû rappeler la responsabilité de l'Allemagne dans la Shoah. C'est une situation quand même totalement inédite.
Oui, elle l'accueillait le lendemain de cette déclaration fracassante faite en anglais. J'insiste sur la langue anglaise parce qu'il s'exprimait en anglais devant le Congrès sioniste mondial et pas en hébreu. Mm-hmm. Et c'est effectivement ce choc qui m'a poussé à entamer ces recherches. Et je ne l'ai pas du tout regretté car le sujet Netanyahou est passionnant, je dirais même fascinant.
Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans cet épisode, dans cette anecdote ?
C'est l'aplomb d'abord avec lequel un chef du gouvernement israélien réécrit l'histoire de la Shoah et comment il utilise, je dirais même il l'instrumentalise, il manipule cette propre réécriture dans son refus du dialogue avec les Palestiniens. Donc on est dans un mensonge d'État que j'ai d'ailleurs qualifié le mensonge de trop.
Jonathan Hayon, vous vous souvenez de cet épisode ?
Oui, tout à fait. Qu'il y ait un usage politique de la mémoire, moi, cela ne me surprend pas. La mémoire est politique et tous les pays l'agitent, l'utilisent à des fins nationaux. Et donc, Benjamin Netanyahou n'en était pas la première utilisation, instrumentalisation de la mémoire de la Shoah. Là où, en revanche, j'ai trouvé ça également choquant, c'est que là, c'est vrai qu'il y a une ligne qui est dépassée puisqu'il y avait un travestissement de l'histoire très clair, très apparent, et que le mémorial de la Shoah à Jérusalem, Yad Vashem, vienne s'opposer au Premier ministre israélien sur une question d'enseignement de l'histoire de la Shoah, c'est vrai que là-dessus, moi aussi, j'ai été frappé.
Denis Charbit, comment vous avez vécu cet épisode ?
De manière très douloureuse, c'est-à-dire effectivement cette instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, et on se rend compte que ce n'est pas la seule fois, puisqu'il vient de le réitérer avec les Polonais en essayant d'alléger la loi polonaise venant criminaliser les historiens et quiconque parle en de mauvais termes du peuple polonais. Alors c'est vrai qu'il n'est pas revenu sur cette affaire du mufti, c'est-à-dire que quand Netanyahou a le sentiment, la conviction qu'il détient une vérité, il la martèle de nouveau et il ne cesse. Là, il faut reconnaître que c'est effectivement un mensonge de trop, mais il n'est pas revenu là-dessus et je doute qu'il revienne là-dessus. Mais en tout cas, ça montre bien le caractère machiavélique du personnage, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens et même quelque chose de sacré, si je puis dire, que constitue l'historiographie de la Shoah, il était prêt à la liquider. Tout ça pour, en fait, le but c'était pas tant de noircir le personnage du Moufti de Jérusalem qui, en tant que tel, l'est déjà, et en tout cas en Israël, c'était tout simplement de faire avaliser l'idée qu'il y a une généalogie directe qui va du Moufti de Jérusalem jusqu'à Mahmoud Abbas et qu'on est dans le même négationnisme historique, alors que c'était lui qui en faisait à ce moment-là.
Alors, Jean-Pierre Filiud, vous commencez par dire dans votre livre que, par définir Benjamin Netanyahou, vous dites qu'il est le premier dirigeant à être né après la fondation de l'État, et c'est quand même important, c'est le seul à ne pas avoir connu le moment de la fondation, ce moment tragique de l'histoire juive, que la fondation de l'État d'Israël, et que il a officiellement, depuis ce mois-ci, en fait, depuis mars 2019, il a officiellement battu les records de longévité à la tête du gouvernement israélien. Et vous écrivez, Netanyahou est loin de représenter un accident dans l'histoire d'Israël. Il en incarne le présent, peut-être l'avenir. Il se hisse à la hauteur des pères fondateurs, c'est-à-dire qu'il représenterait, d'après vous, un nouveau visage de sinon du sionisme, en tout cas d'Israël.
Oh, je le pose en refondateur,
en
miroir de David Ben-Gourion, donc le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Lui a d'ores et déjà à son actif la loi fondamentale à valeur constitutionnelle adoptée l'an dernier, qui définit Israël comme État-nation du peuple juif, loi qui ne mentionne pas une seule fois le terme démocratie, alors que celui-ci était au cœur de la déclaration d'indépendance, qui proclamait également l'égalité entre tous les citoyens d'Israël, qu'ils soient juifs ou arabes. Et donc je suis impressionné par son parcours, et c'est là où avec mes amis israéliens je peux avoir des divergences, parce que très souvent ils le traitent d'opportuniste, de manipulateur, là où je le crédite d'une vision, même si celle-ci est très pessimiste, à mon avis assez destructrice pour ce qu'incarnait le rêve sioniste. Et donc il continue et il semble déterminé à continuer à remporter les prochaines élections qu'il a anticipées au 9 avril et à continuer à refaçonner l'État d'Israël à son image.
Alors vous dites que Netanyahou s'inscrit dans une perspective historique qui a été trop souvent niée par la geste sioniste traditionnelle, essentiellement de gauche et travailliste. Et cette perspective historique, c'est celle de Vladimir Jabotinsky, le fondateur de ce qu'on a appelé le révisionnisme israélien, rien à voir avec le révisionnisme tel qu'on l'entend en France. Denis Charbit, vous avez beaucoup travaillé sur le et sur les sionismes. Et avant d'aller plus loin, pour qu'on s'y retrouve un peu, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un petit paysage très vite des sionismes et de la place de Jabotinsky là-dedans ?
Alors effectivement, le sionisme c'est un tronc commun, c'est pas une idéologie en tant que telle, hein. C'est l'idée que les juifs doivent se reconstituer en nation, se rassembler sur la terre d'Israël pour y fonder un état, une démocratie. La question du régime n'a jamais été discutée, elle faisait consensus, et ça passe également par la réhébraïsation de la culture, c'est-à-dire l'adoption de l'hébreu comme langue vernaculaire et langue de culture, et visant donc au rassemblement des juifs sur cet état. Voilà ce que c'est voilà le point commun entre tous les sionismes. Mais à partir de là, sur chacun de ces points, il y a eu des divergences, parce qu'effectivement, le mouvement sioniste s'est constitué comme un mouvement démocratique. Si on dit, par exemple, il y a consensus sur le rassemblement des juifs en terre d'Israël, oui, mais quelle terre d'Israël? Quelle frontière? Et là, bien entendu, que ça fait, comment dirais-je, débat. Si on parle du rassemblement des juifs, certains vous diront, le but, c'est pas de rassembler tous les juifs, mais de rassembler ceux qui le veulent, ceux qui en ont besoin, parce qu'ils sont persécutés là où ils se trouvent. La question de la place des Arabes israéliens aussi fait débat, celle de le poids de la religion et de l'État. Et autour de toutes ces divergences-là, s'est constitué le pluralisme des sionismes, avec on va dire la plus grande tendance dominante, en tout cas à la fin des années 70, c'était le sionisme travailliste.
Plutôt de gauche et socialiste.
De gauche, c'était avec une orientation socialiste ou social-démocrate en tout cas, c'est-à-dire c'est la classe ouvrière qui doit prendre en charge la cause de l'édification nationale. Vous aviez en face donc le sionisme révisionniste. Pourquoi ? Parce qu'il révise certains justement des points du consensus sioniste traditionnel qu'incarnaient les travaillistes, notamment sur les frontières, la revendication de la Transjordanie. Jabotinsky effectivement estimait que il n'y a pas que la classe ouvrière qui doit prendre en charge cette question, mais également les artisans, les commerçants, voire les chefs d'entreprise. Donc une vision très anti-syndicale. Et il y avait le sionisme religieux. Et puis d'autres tendances, alors autour de questions liées soit à la question arabe, soit à la question religieuse. Et c'est ce pluralisme-là dont a hérité la Knesset et que l'on voit dans l'échiquier politique. Une dernière phrase, peut-être pour dire que, bien sûr que Netanyahou est dans l'héritage de ce sionisme révisionniste. Néanmoins, autant je suis totalement d'accord avec Jean-Pierre Filiu pour dire que, contrairement à tout ce que l'on a dit pendant des années, à savoir que la seule chose qui intéresse Netanyahou, c'est le pouvoir, et que pour garder le pouvoir, il serait prêt à vendre père et mère, non. Je le crédite également d'un projet idéologique pur et dur, et c'est empêcher toute négociation d'aboutir, et je dirais que la grande victoire de Netanyahou dans ces trois dernières années, c'est que c'est la première fois depuis les années 90 qu'il n'y a pas de négociation officielle entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne, ou une représentation palestinienne. Et ça, c'est vrai que c'est une première. En revanche, je pense qu'il ne faut pas trop charger la filiation entre Jabotinsky et Netanyahou, parce que Jabotinsky était l'adepte d'un sionisme libéral, un sionisme inspiré du nationalisme italien de Mazzini et Garibaldi, qui étaient ces figures de proue. Et la preuve, c'est qu'il y a eu dans toute l'histoire du mouvement révisionniste et du Likoud ensuite, le parti de Menachem Begin, des figures certes attachées au grand Israël, que ce soit que ça inclut la Transjordanie jusqu'aux années 50 ou que ça soit jusqu'à la frontière du Jourdain, mais qui estimaient que la domination de l'État d'Israël sur des frontières élargies ne doit pas absolument remettre en cause l'égalité entre juifs et arabes. Et c'était le cas du fils de Menachem Begin. D'ailleurs, tous ces leaders, tout ce qu'on dit aujourd'hui, et je terminerai là, c'est que toute cette frange libérale du Likoud, attachée au grand Israël, mais attachée à la démocratie au sens fondamental du terme, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, le fils de Begin en premier, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, est membre du Likoud, mais il ne l'est plus en tant que président de l'État, mais complètement opposé à cette ligne dure. Et donc je dirais que ce qu'incarne Netanyahou, c'est pas une filiation absolue avec le sionisme de Jabotinsky, mais c'est bien un sionisme illibéral et antilibéral, ce que n'était pas Jabotinsky sur le plan politique.
Jean-Pierre Filiu.
Oui, alors il est certain que Netanyahou est l'homme de ce temps et Jabotinsky était l'homme de son époque il y a pratiquement un siècle, et qu'il y a eu une évolution vers ce durcissement, mais je crois qu'il était important de montrer la filiation, notamment par le père de Netanyahou, Ben Zion, un historien qui a été un collaborateur de Jabotinsky jusqu'à sa mort, à la mort de Jabotinsky en 1940 à New York. Et effectivement, ce qui est frappant, en tout cas ce qui m'a frappé, c'est la volonté de revanche de Netanyahou et de cette famille politique qui nourrit jusqu'à aujourd'hui, alors même qu'il vient de battre le record de longévité à la tête du gouvernement, un discours contre les élites, comme si les élites c'était toujours les autres, comme le fait d'avoir été dans le camp des vaincus au moment de la fondation de l'État d'Israël, d'être dans la minorité par rapport aux travaillistes, pouvait justifier encore aujourd'hui un droit à dire « nous prenons notre revanche contre ceux qui nous ont aussi longtemps dominés » et d'où les amalgames aujourd'hui tout à fait libéraux, comme le disait Denis Charbit, entre les Arabes, les médias, la presse, la justice et la police.
Vous citez des phrases de Netanyahou qui datent de la campagne de 1999 et qui effectivement donnent le sentiment d'anticiper sur la vague populiste mondiale aujourd'hui. Par exemple, celle-ci, les élites détestent le peuple, elles le haïssent, elles haïssent les séfarades, les russes et les religieux.
Alors ce qui est très frappant pour l'historien, c'est que cette phrase est prononcée dans un quartier déshérité du sud de Tel Aviv, où aujourd'hui il y a eu des tensions très sérieuses avec les immigrés africains, et où une ministre de Netanyahou, sa ministre de la Culture, ça ne s'invente pas, est allée dénoncer ces immigrés comme un cancer au sein de l'État d'Israël. Donc on voit comment le terreau s'est littéralement constitué pour la propagation de ces idées populistes et xénophobes.
Jonathan Ayoun, comment vous vivez, vous, alors pour le coup en tant que juif, cette espèce de dérive populiste ou de cette montée du populisme en Israël qui dure depuis un certain temps mais qui s'affirme maintenant très fortement et qui fait miroir en un sens à ce qui se passe ailleurs, notamment ici?
Oui, je le vis et je le ressens depuis un certain temps, cette vague qui est en marche là-bas, donc loin d'ici, mais que je regarde avec attention comme beaucoup de juifs et comme beaucoup de nos concitoyens, même de manière plus générale. Et je le regarde bien sûr avec douleur lorsque je vois ce type de déclaration, comme Jean-Pierre Filu vient de rappeler, de la ministre de la Culture. Et là, la campagne là est particulièrement agitée avec des propos xénophobes assez conséquents. Donc je regarde avec inquiétude, d'ailleurs, les résultats des élections à venir. Et bien sûr, je vois la manière dont ça peut résonner en Europe, ce populisme-là qui sévit un peu partout. Mais cette inquiétude-là, quelque part, j'essaie de la tenir à distance, et c'est l'objet du travail du livre que nous venons d'écrire avec Judith Consolade, dans le sens où cette vague de populisme-là, je ne la ressens pas au sein de la communauté juive, au sein des institutions juives françaises qui tiennent bon face aux tentatives de séduction, parce que l'alliance populisme avec lutte contre l'antisémitisme, comme veut le montrer certains mouvements populistes en Europe centrale et comme veut le montrer le Rassemblement national en France, ne prend pas auprès des juifs français, ne prend pas auprès des institutions juives. Donc j'ai à la fois cette inquiétude que finalement ça puisse avoir des conséquences notamment dans le comportement des juifs à l'égard du populisme, mais j'ai l'impression que dans le monde de la diaspora, ce courant-là n'a pas d'incidence forte.
Oui, alors justement, cette question de la diaspora qui est quand même très importante, est-ce que on a vu Netanyahou se taire 3 jours, vous le rappelez Jean-Pierre Filu dans le livre, après la tuerie à la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis.
Après Charlotteville.
Pittsburgh,
oui. Là, justement,
Pittsburgh,
il avait appris.
Après Charlottesville, oui, c'est moi qui m'emmêle les pinceaux. On l'a vu se rapprocher de gouvernements hongrois, des gouvernements polonais, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça ne présage pas d'une sorte de divorce totalement inédit entre Israël et la diaspora? Divorce paradoxal quand même.
Moi, tension paradoxale. J'ai l'impression que la réelle politique, dans tous les cas du gouvernement israélien, est ce qui compte le plus. Donc s'il faut se rapprocher de cette démocratie libérale d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue stratégique, le poids de la parole des institutions juives dans ces pays ne compte pas tant que ça. Mais j'amènerai quand même un bémol, dans le sens où malgré tout, il n'y a aucune rencontre, par exemple, entre le Rassemblement national et le gouvernement et l'exécutif israélien. Et c'est pas faute de le vouloir du côté de l'extrême droite française. Hein. C'est un désir contrarié de Marine Le Pen de ne pas se rendre en Israël auprès d'officiels. Et cette absence de rencontre-là, donc de cette fin de non-recevoir de la part des dirigeants israéliens, d'après moi, se fait aussi en prenant en compte ce que disent les juifs français qui sont inquiets de ce possible dialogue et qui appellent de leur vœu qu'il n'ait jamais lieu. Donc, malgré tout, il y a quand même cette prise en considération, en tout cas si on s'intéresse particulièrement à la France.
Mmh. Et oui, c'est aussi vrai des juifs américains. Hein, oui. Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a sur fond d'islamisme et de terrorisme globalisé une tentative de narration consistant à faire d'Israël la pointe avancée d'une sorte de nationalisme pan-européen, voire occidental, qui lutterait contre la barbarie musulmane en tant que telle.
Mais ce qui est très frappant, c'est que la cible désignée par Netanyahou comme par les libéraux européens, c'est une cible juive, c'est George Soros.
Oui, oui, tout à fait.
C'est ce philanthrope à vocation universaliste, par ailleurs milliardaire, qui est en permanence mis en cause comme étant le grand artisan de l'arrivée des réfugiés majoritairement musulmans en Europe, de l'arrivée des immigrés illégaux d'Afrique en Israël, comme s'il menaçait à lui tout seul avec un réseau globalisé mondial. Et là, on voit vraiment le recyclage de clichés antisémites.
Ah, c'est assez surréaliste de se dire que cette cible-là, qui est George Soros pour le gouvernement hongrois, peut l'être aussi de certains dirigeants israéliens. Mais la manière dont il s'attaque à George Soros se fait bien évidemment différemment et on ne pourrait pas accuser le gouvernement israélien de le faire avec des objectifs antisémites, bien évidemment, ce qui est par contre le cas lorsqu'on regarde la campagne menée par le gouvernement hongrois. Mais il n'empêche que d'ailleurs, sur ce sujet-là précisément, les points d'accroche finalement ne tiennent pas, et j'ai l'impression, ne tiennent pas si longtemps que ça. Hein. On le voit dès que ces alliances-là essayent de tenir sur la durée, dès que la question de la mémoire, même si elle n'est pas chevillée au corps en termes de réalité historique chez le Premier ministre israélien, c'est un sujet qui compte quand même pour les Israéliens. Et finalement, par exemple, on voit le dernier sommet Vidgrad qui devait avoir lieu, le ministre des Affaires étrangères israélien dit que, alors bien sûr en essentialisant les Polonais, puisqu'ils disent qu'ils boivent l'antisémitisme dans le de leur mère. Donc la phrase est un vieux proverbe yiddish qui avait été notamment rappelé par Shamir, un ancien dirigeant israélien. Et donc il s'inscrit lui dans une histoire israélienne où on s'inquiète de l'antisémitisme polonais et la Pologne, ça ne leur a pas plu. Et donc les liens ont été quelque part distendus par cette ce qui paraît être anecdotique, mais en réalité dit beaucoup.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très étrange, Denis Charbit, dans cette tentative de rapprochement avec des gouvernements qui flirtent avec l'antisémitisme, en tout cas avec la mémoire antisémite, alors même que le pays n'a jamais été aussi prospère économiquement, c'est pratiquement le seul pays stable du Moyen-Orient, et pourtant il y a un malaise.
Oui, alors je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, je crois que j'ai lu avec attention le portrait à charge de Benjamin Netanyahou dans le livre de Jean-Pierre Tillieu. Oui. Je crois qu'il faut effectivement mettre en avant la vision du monde de Netanyahou, qui oui. est une vision réelle politique, oui. et qui consiste aujourd'hui à dire, puisque de toute façon les équilibres idéologiques sont en train de bouger, sont en train de se transformer, qu'aujourd'hui la palme est donnée à ce qu'on appelle la démocratie antilibérale, il y va jusqu'au bout. Et je dirais que ça a deux conséquences. La première, c'est que, vous savez bien que la rivalité droite-gauche, le clivage droite-gauche en Israël, depuis les années 70, depuis la guerre des six jours, est structuré autour de la solution à apporter au conflit israélo-palestinien. En gros, est-ce qu'on garde les territoires ou bien est-ce qu'on crée un État palestinien à côté d'Israël en change d'appel c'était ça le clivage. C'est ça. On était de gauche parce qu'on était pour un État palestinien, on était de droite parce qu'on voulait maintenir la présence israélienne en Cisjordanie. Aujourd'hui, être de gauche et être de droite en Israël, ça se superpose un autre clivage, ça n'a pas éclipsé le précédent, mais se superpose un autre clivage qui est entre l'état de droit libéral et la démocratie libérale. Et c'est là où j'insiste, et je suis tout à fait d'accord avec cette définition de Netanyahou comme refondateur, parce que le Likoud est au pouvoir depuis la fin des années 70, depuis 1977. Or le Likoud, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé à poursuivre ou à accélérer même la colonisation, la création d'implantation en Cisjordanie, mais tout en respectant l'état de droit. Je dois dire, en 1979, la Cour suprême décide de démanteler une implantation de fond en comble. Begin dit, il y a des juges à Jérusalem et on doit leur obéir. Eh bien, aujourd'hui, le clivage passe autour de là. Voilà quelque chose que Netanyahou a apporté, et notamment ces dernières années. On sent bien que ce qui distingue la gauche et le centre, si vous voulez, et la droite, c'est pas simplement la question l'avenir des territoires, qu'est-ce qu'on en fait, mais bien cette question de l'illibéralisme, c'est-à-dire une démocratie, parce que ce sera toujours le suffrage universel qui désignera les députés à la Knesset, mais s'accompagnant d'un réarmement moral et spirituel qui passe effectivement par l'adoption totale du clash des civilisations dont Israël serait en quelque sorte à la tête, là où les présents gouvernements s'en étaient toujours gardés. Et je dirais, pour terminer, que la seule raison pour laquelle le Likoud pourrait pas faire partie d'une internationale de l'extrême droite, c'est à cause de l'antisémitisme. Mais supprimer cet obstacle-là, il y aurait pas grand-chose qui empêcherait de se retrouver complice sur le plan idéologique, et les évangélistes américains, etc., et tous les appuis du gouvernement israélien aujourd'hui démontrent bien ce changement. Voilà, on est dans un changement d'air, un changement d'époque, et Netanyahou accompagne ce changement-là en adoptant ces principes-là dits populistes.
France Culture. Signe des temps, Marc Betzman. Look out your window, babe, there's a scene you'd like to catch. The band is playing Dixie, a man's got his hand outstretched. Could be a faker, could be the local priest. You know. Sweet gift to gab, he got a harmonious tongue. He knows every song of love that ever has been sung. Good intentions can be evil, both hands be full of grease. You know, sometimes Satan comes.
Sometimes Satan comes as a man of peace. Denis Charbit, vous venez de rappeler le rôle, en fait, finalement, de la fin du processus de paix, en réalité. C'est à ça que ça revient, ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que la politique de Netanyahou a été, ce changement, cette mutation d'Israël, a été possible par la fin d'une histoire qui est la fin d'une certaine gauche israélienne qui a commencé avec la protestation contre l'occupation en Cisjordanie et avec le désir de faire la paix avec les Palestiniens. Et c'est ça qui s'est achevé en septembre 2000 avec la fin du processus d'Oslo.
C'est vrai que il faut essayer d'expliquer finalement pourquoi Netanyahou a ce succès-là. Et je crois qu'il y a d'un côté effectivement le changement d'air. Moi, je dis toujours, il y a un tiers des Israéliens qui sont pour deux États pour deux peuples, il y a un tiers des Israéliens qui sont pour le grand Israël, et vous avez un tiers qui est une sorte de marais mouvant et qui voit où le vent souffle. Alors quand la période, c'est la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, la paix en Irlande du Nord, ben ils se disent, ben nous aussi on va y aller. Il y a un contexte international qui nous incite à essayer le processus de paix. Et quand on est dans une autre ère, le 11 septembre, le terrorisme, les populismes, Trump, etc., Poutine, Erdogan, eh ben les Israéliens, ce même Marella qui est pas un idéologue du Grand Israël, mais se dit dans une période, il faut un homme fort, un homme dur, un homme retors, et il faut ajouter également, outre ce contexte international, la gauche a perdu son crédit politique auprès des Israéliens, bah parce qu'elle a accompagné ou parce qu'elle a encouragé deux retraits, le retrait du Liban en 2000, le retrait de la bande de Gaza en 2005, c'était pas la gauche, c'était Ariel Sharon quand même, mais avec le soutien de la gauche. Et dans les deux cas, et je l'avais écrit à l'époque, je disais, ce retrait de Gaza, s'il fait en sorte, s'il contribue à ce que à Gaza tout se passe bien, et qu'en revanche ça continue d'exploser en Cisjordanie, les Israéliens tireront la conclusion que d'un territoire dont on se retire, tout va bien, mais d'un territoire sur lequel on reste, alors qu'on y est, on devrait pas y être, ben ça se passe mal. Or c'est le contraire qui s'est passé. C'est en Cisjordanie que la résistance palestinienne est pas très éloquente, pas très très forte, il faut bien le dire. Et c'est du sud Liban dont nous étions retirés en 2000, qu'il y a eu le Hezbollah avec la seconde guerre du Liban en 2006, et les roquettes depuis que la bande de Gaza a été prise par le Hamas. Et donc du coup, c'est plus que le contexte international, c'est cet échec-là, c'est ce pari-là qu'a tenté la gauche en disant, quand on se retire, on va y gagner, on va faire un pas de plus vers la paix, et du coup, et c'est comme ça d'ailleurs que Netanyahou gagne les élections, en tout cas jusqu'à présent, en disant, mais si demain on se retire de Cisjordanie, alors peut-être Mahmoud Abbas sera parfait, peut-être que lui il sera loyal, mais il suffira de quelques organisations djihadistes, Hamas ou autres, pour contester ce retrait, et de nouveau Israël sera plongé dans l'insécurité. Et c'est donc cette frilosité dont Netanyahou s'est joué parfaitement, mais pas simplement parce qu'il la manipule, mais parce que effectivement, on n'a pas le sentiment, et je dirais d'ailleurs à cet égard que je m'associe parfaitement, et je l'ai dit, et je suis heureux d'être en compagnonnage intellectuel avec Jean-Pierre Filiu, s'il y a une chance pour que les choses bougent, c'est effectivement que les Palestiniens se décident de manière résolue à une stratégie non violente.
C'est-à-dire que le Hamas à Gaza a de facto soutenu, enfin permis à Netanyahou,
oui,
d'être
la droite israélienne. Oui, c'est les alliés, une sorte de sainte alliance entre les deux.
Alors, je vais faire l'avocat du diable quand même une seconde, Jean-Pierre Filiu. Vous dites que Netanyahou est structuré par une vision pessimiste de l'histoire. On vient de le voir, son ascension a été rendue possible par l'explosion du processus de paix. Et est-ce que la vision de Netanyahou, qui consistait à dire depuis le début des années 90 à l'Occident, il y a le terrorisme, vous allez y être confronté un jour ou l'autre, de toute façon, vous aussi, est-ce que finalement le 11 septembre ne lui a pas donné raison? Est-ce qu'en fait, la vision pessimiste de l'histoire n'était pas justifiée?
Alors, justifier, c'est pas à l'historien de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que sur ce plan-là, Netanyahou a eu raison avant tout le monde et qu'il ne cesse de capitaliser sur son positionnement de pionnier sur cette question de l'anti-terrorisme qui pour lui était une obsession et qui aujourd'hui, regardons le monde autour de nous, est un élément tout à fait déterminant de l'ensemble des relations internationales et pas seulement au Moyen-Orient. Mais je voulais revenir sur la question de la diaspora. Parce que ce qui est fascinant, là aussi, avec Netanyahou, vous voyez, je ne crains pas de le créditer de cette fascination, c'est qu'il est en train, sous nos yeux, d'inventer un sionisme sans diaspora. Un sionisme qui, fondamentalement, repose sur les évangéliques, parce que ceux-ci soutiennent sa position très dure dans ce qu'ils appellent la vraie Terre Sainte, c'est-à-dire la Cisjordanie occupée, et que c'est sur eux qu'il s'est appuyé, on l'a vu évidemment aux États-Unis avec Trump, mais aussi désormais au Brésil avec Bolsonaro, pour élargir ses réseaux internationaux et créer de nouveaux faits accomplis, notamment à Jérusalem. Et ça, c'est, du coup, il considère que les institutions de la diaspora, qui sont souvent critiques, qui sont de toute façon plurielles, eh bien, il peut un peu passer outre. Et ça, c'est totalement inédit dans l'histoire d'Israël, de même qu'il est inédit que l'agence juive décide, comme elle l'a fait l'an dernier, de nommer à sa tête le chef de l'opposition officielle à Netanyahou, dans un véritable camouflet au premier ministre israélien.
Jonathan Ayoun, sur cette question.
J'ai du mal à adhérer au terme sionisme sans diaspora, puisque pour moi, tant qu'il y a une diaspora, le sionisme ne peut pas avoir de sens sans s'adresser à elle, sans la prendre en compte, puisque dans sa conception originelle, c'est être un état refuge. Donc le sionisme ne peut pas, tant qu'il y aura des juifs en dehors d'Israël, ne peut pas se penser sans s'intéresser malgré tout aux juifs de diaspora. Donc à part une difficulté avec cette association de ces deux termes-là en opposition, je comprends en effet que il y a une stratégie politique de Netanyahou de faire des alliances qui dépasseraient aux États-Unis le soutien à la communauté juive qu'il a de moins en moins et qu'il n'a jamais d'ailleurs totalement eu, et s'approcher des évangélistes, souvent d'ailleurs de la même manière dans ce rapprochement-là avec les démocraties libérales. Il y a aussi dans cette alliance étrange avec les évangélistes, un oubli ou une manière de mettre de côté le caractère antisémite qui, en tout cas là pour le coup, anti-juif dans l'anti-judaïsme religieux qui est présent dans ces courants-là. Donc je vois bien ce qui est dit par là. En revanche, malgré tout, je remarque que le Premier ministre israélien prend quand même en compte la parole des juifs de diaspora et notamment, par exemple, pour prendre l'exemple concret de ses voyages dans ces différents pays de démocratie illibérale, il ne boycotte pas complètement la communauté juive, il la rencontre, il l'écoute peut-être moins que ses prédécesseurs, mais il ne fait pas comme si elle n'existait pas.
Je voudrais peut-être ajouter un mot sur la diaspora, le rapport de Netanyahou et la diaspora. Il y a deux types d'hommes politiques, ceux qui réussissent parce qu'ils sont consensuels et parce qu'ils sont rassembleurs, et ceux qui réussissent, ceux qui triomphent, parce qu'ils sont clivants. Netanyahou est de cette seconde trempe-là de leader. C'est-à-dire, il ne peut concevoir d'exercer le pouvoir que s'il parvient à cliver. Il clive la société israélienne. C'est ça qui est pour moi d'ailleurs le grand paradoxe. Il y a une économie prospère, vous en parliez tout à l'heure, une sécurité qui est relativement bien établie. Il pourrait rassembler, il élargit les sympathies de pays du monde à l'égard d'Israël, et au lieu de s'en prévaloir, il ne le fait qu'en clivant, qu'en isolant, qu'en pointant du doigt la gauche israélienne, le centre, les élites, etc. Et il fait la même chose en diaspora, en s'appuyant sur une partie de la diaspora qui lui est acquise. Hein, il ne faut pas croire, la diaspora est divisée aujourd'hui. Elle n'est pas en bloc contre Netanyahou, loin de là, mais elle n'est pas non plus le soutien. Et moi, je poserai la question, on verra bien aux prochaines élections, est-ce que la diaspora juive américaine qui vote massivement pour les démocrates, est-ce que à la faveur de Trump et à la faveur de ce qui se passe, des remous radicaux au sein du Parti démocrate, ne vont-ils pas glisser vers le Parti républicain? De même qu'on voit ça déjà aujourd'hui en Grande-Bretagne entre le Labour et les Tories et le Parti conservateur, ou une partie de l'électorat juif britannique qui votait traditionnellement le Parti travailliste sera peut-être tenté de voter ou pour le Parti libéral ou pour le Parti conservateur. Donc il y a ici des recompositions, et Netanyahou entend bien faire une recomposition de la diaspora, de réduire le poids des juifs libéraux, notamment aux États-Unis. En France, il est plutôt gagnant. Hein. Enfin, je veux dire, la communauté organisée, en tout cas, est plutôt derrière elle. Donc, en ce sens, il n'a pas abandonné la diaspora, mais il clive toujours en pointant les élites et le peuple, la rue juive, pour ainsi dire. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est qu'il a la baraka. Enfin, Netanyahou va de succès en succès. Je vois bien le portrait à charge qu'en fait Jean-Pierre Villu, auquel je souscris parfaitement. Mais voilà. Attendez, le cadeau électoral que Trump vient de lui faire en déclarant que le monde, il dit pas les États-Unis reconnaissent la souveraineté israélienne sur le Golan. Il va pas jusque là. Mais il suffit de lancer ce message-là. Le monde devrait reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Voilà. Et là où la gauche une fois de plus en Israël, et comment dirais-je, elle est mal. Pourquoi? Mais parce que depuis des années, on disait, quand la droite la plus extrême va prendre le pouvoir et va exercer le pouvoir, eh bien elle va se retrouver isolée. Eh ben, elle n'est pas isolée. Certes, effectivement, Emmanuel Macron ne vient pas en Israël parce que il a de bonnes raisons de dire je veux pas me retrouver invité en Israël après Salvini, Orban, Trump, etc. Mais autrement, c'est plutôt on assiste plutôt. Regardez le Tchad qui se rend le président du Tchad qui se rend en visite officielle en Israël. Il a la baraka, et ça marche. Et si ça marche, eh ben avec tous les défauts du père. Et ça parce qu'il sait jouer effectivement du rapport de force, de l'évolution idéologique, des crises qui secouent l'Europe, et voilà, il enfonce l'Europe occidentale démocratique, libérale, avec en s'appuyant sur les pays mineurs de d'Europe centrale.
Mais est-ce que c'est pas une caractéristique des chefs d'État du 21e siècle de s'affirmer, de gagner en jouant les losers en quelque sorte, c'est-à-dire que ils sont tous en train de ruminer un ressentiment général, ils sont tous en train de taper sur les élites et ils sont tous en train de gagner avec un discours de perdant et voire d'associal.
Oui, alors c'est vrai que c'est la rhétorique qu'il emploie. Je dirais qu'il y a autre chose, je vois aussi autre chose par rapport à une démocratie libérale qui s'est conçue sur le modèle du respect des minorités, quelles qu'elles soient, ethniques, sexuelles, etc. Lui, il joue cette nouvelle donne, cette nouvelle carte qui dit mais la majorité a des droits et elle doit pouvoir affirmer sa suprématie au détriment des minorités. Et ça, il le fait malheureusement à merveille. Et la loi fondamentale sur l'État-nation du peuple juif en est la parfaite illustration.
Jean-Pierre Filliu, sur cette notion des dirigeants du XXIe siècle qui sont... Parce que vous le dites dans votre livre, vous faites le portrait du père de Netanyahou en particulier, comme un homme plein de ressentiments qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait souhaité de la part de ses collègues historiens. Et vous dites que c'est ça qui aurait alimenté la vision pessimiste de Netanyahou père et fils, en fait. Mais ça dépasse le simple cadre de Netanyahou. Il y a cette espèce de culture du ressentiment qui fonctionne, on gagne avec un discours de loser.
En tout cas de revanche. Je crois que s'il y a un mot qui pourrait résumer la ressource principale de Netanyahou, c'est la peur. D'ailleurs, il le fait scander dans ses meetings, non seulement en jouant sur les peurs que les Israéliens ressentent légitimement, mais en disant, vous savez, nos adversaires ont peur, et ils les pèlent, P-E-U-R, au cas où on n'aurait pas compris. Donc, derrière la victime, il y a toujours aussi la volonté de revanche. Mmh. Et ce qui est terrible, Denis Charbit l'a parfaitement exposé, c'est que il clive, il divise dans une société israélienne qui a sans doute aujourd'hui besoin plus que tout de dialogue, de respect, d'apaisement. Et autant les élections précédentes ont pu concerner plus ou moins le processus de paix avec l'autre, avec l'arabe, autant aujourd'hui il s'agit de la paix d'Israël avec Israël et d'une forme de reconnaissance justement de la diversité israélienne sur fond de diversité des sionismes. Et là, Netanyahou, tout au contraire, il appuie sur tout ce qui fait mal et divise, il clive chaque fois qu'il peut.
Une dernière question.
Par rapport aux Arabes israéliens, là, le paradoxe est au paroxysme, parce que jamais les Palestiniens d'Israël ne se sentent aussi intégrés sur le plan économique, sur le plan social. Les rencontres aujourd'hui dans la vie quotidienne, Arabes et Juifs se fréquentent, et c'est au moment où les Arabes israéliens n'ont jamais été aussi bien intégrés dans la société israélienne qu'ils appuient sur la division en disant il y a eux, il y a nous, ils veulent notre perte, etc. Et le même Netanyahou qui a fait voter par son gouvernement une enveloppe budgétaire structurelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, pour renforcer les infrastructures en milieu arabe pour qu'ils puissent participer encore un peu plus à la vie économique. Donc on est dans un paradoxe total, c'est-à-dire on a besoin de se créer un ennemi intérieur au moment même où pour les Israéliens juifs, ils le sont de moins en moins.
Et pour finir, Jonathan Ayoun, une dernière question sur la diaspora. Est-ce que la diaspora n'est pas isolée, coincée, piégée entre d'une part cette évolution israélienne et puis les problèmes qu'elle rencontre, notamment ici ?
En tout cas, elle est sommée de devoir s'interroger, se questionner sur comment lutter contre la manière dont elle est prise pour cible par des phénomènes antisémites très divers, et où aussi elle est renvoyée, et là c'est à tort, au comportement des politiques israéliens comme en étant aussi en partie responsable. Et c'est là où cette mise en harmonie, en adéquation entre la politique israélienne et le sort des Juifs de France n'est pas à faire.
was a secret chord. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composes, hallelujah, 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 hallelujah.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Dempereur, avec à la technique Emmanuel Morse Duncan et à la réalisation Véronique Villa. Dans quelques instants, une histoire particulière.
She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips you drew your hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen you flap on the marble arch. And love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you and the holy door.